sur la bande. Podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la Gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les trois étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table. Sans pitié, le rêve clos nous donne 2 minutes. Sur la bande, on se relève. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la Gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les trois étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table.
Bonjour Zach.
Salut Seb.
Ça va bien?
Oui, toi?
Yes, super. Merci tout le monde de passer ce beau dimanche avec nous. Dimanche 19h, nous sommes toujours là avec des nouveaux invités.
On va
parler plus dans le segment du ref, mais la blessure de l'année, là, c'était une grosse game, une grosse blessure, je pense. On va avoir les détails sûrement plus cette semaine.
Mais d'abord, si t'as glissé un mot de suite, moi le faire moi aussi. Je vous invite à aller voir la page de HF Sport sur Instagram. Ils ont mis un GoFundMe de 3 386 $. Je sais pas c'est pourquoi.
C'est pour le montant qu'Arbor a payé, je pense.
Tu parles du GoFundMe. Oui. Déjà 2 432 $ de données. C'est assez drôle. Comme si le gars ne pouvait pas le payer tout seul. Mais c'est en soutien à son geste. Par contre, salut David qui nous écrit allô. Par contre, les menaces envers un joueur de hockey, ça fait, là, faites pas ça.
C'est ça. Puis on va en parler un peu plus, le ref va en discuter. Merci encore à nos 4 commanditaires, on va en parler à chaque segment. Une très grosse saison 4, on est prêt avec la toune. Merci encore à Rich Pat, un très, très bon beat.
Yes. Petite question de la semaine, on invite tous nos auditeurs, ouais, c'est ça, merci, à répondre. Dans les 27 joueurs retranchés au cas des Canadiens, lequel vous surprend le plus?
Aussi, on va vous les présenter, les réponses dans le segment du ref avec Claude. Fait qu'on peut lancer tout de suite la mise au jeu de la semaine.
La mise au jeu, une présentation de Rabourrage Abitibi 2007, Alain Sabourin. Vous pouvez le contacter pour des toiles de bateau, VTT, tout ce qui est dans le rembourrage, Alain Sabourin.
Bonjour Jean-Sébastien.
Salut messieurs, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien, merci.
Parfait, est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation de qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas?
Oui, ben Jean-Sébastien Perron, 48 ans, je suis originaire de Saint-Basile-le-Grand sur la rive sud de Montréal, puis je suis recruteur-chef depuis le début de la saison 2016-2017 avec les Vultures de Drummondville.
Parfait, yes. C'est exactement ça qu'on voulait.
Parfait, fait qu'on va passer tout de suite au segment autour du filet.
Ce segment d'autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
On en avait parlé un peu hors onde, mais des postes, tu en as eu plusieurs. Là, tu l'as dit, ton poste dans ce moment. Mais on va commencer en 2006 jusqu'à 2008, selon Elite Prospect. Tu as été assistant coach pour les Cataractes de Shawinigan. Comment tu as vécu cette première expérience-là?
Écoute, c'était vraiment une belle expérience. C'était un rêve de jeunesse là, de graduer les échelons comme ça. T'sais, moi, j'ai commencé à coacher au hockey mineur à 16 ans, saison 92-93, puis commencé dans du Pee-wee simple lettre, le fait que d'atteindre de l'LGMQ plusieurs années plus tard, là, mais première expérience comme ça, comme adjoint dans cette ligue-là, là, c'était spécial. Éric Veilleux, l'entraîneur-chef, l'aréna Jacques Plante qui en était à ses derniers milles à Shawinigan, je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter le building, mais mettons que c'était assez spécial comme endroit. Mm-hmm. Et ben, ça reste des adversaires impressionnants aussi là, au travers de ces deux saisons-là. Claude Giroux, Paul Byron, entre autres. Puis je vais m'en garder un pour les anecdotes tantôt là, que je vais parler plus tard. Là, mais dans deux belles saisons bien remplies.
Là. Parfait. Pour continuer dans les pleins de rôles que vous avez eus, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé aussi souvent? Des appels, des offres d'emploi, c'est quoi?
Oui, ben, tu sais, si on revient au début, dans le fond, la première association avec un club, c'est 96-97. J'ai été recruteur avec les Screaming. Dans ce temps-là, c'était pas les Eagles, c'était les Screaming Eagles, Cap-Breton. Puis le fait, eux, que j'ai quitté, c'est que j'ai tombé entraîneur adjoint avec Shawi. Donc, c'est ça, 96-97 à 2005-2006 avec les Eagles. Après ça, mes deux années avec Shawi. Et puis, entre ces deux saisons-là, ben, la gang qui était au Cap-Breton, c'était le groupe qui était avec Pascal Vincent, qui était entraîneur-chef puis DG. Puis moi, c'est Yannick Lemay, qui est aujourd'hui mon boss au Wiltshire, qui était recruteur-chef à ce moment-là avec les Eagles. Fait que quand tout ce beau monde-là s'est déplacé avec le junior de Montréal, je les ai rejoints. Moi, j'avais fait un court séjour avec les Patriotes de Châteauguay, Midget 3, là, dont une demi-saison en chef. Et puis après ça, c'est ça. J'ai rejoint le junior de Montréal qui est devenu l'Armada. Fait que ça, c'est la raison pourquoi ça a changé du junior à l'Armada. On n'a pas eu ça. On a suivi le déménagement. Ouais. Et puis Armada, ça l'a mené jusqu'à 2016-2017 là, où je me suis fait offrir là, la promotion là, de devenir recruteur-chef avec les Wiltshire.
Comment vient l'idée de devenir recruteur? T'sais, vous avez gravi autour du hockey. Comment que ça a fonctionné? C'est avec les contacts que vous avez eus?
Là, allez-vous me vous voyez tout le long?
Ah non, si, oh, je peux t'appeler JS aussi si tu veux.
C'est juste pour être sûr. Non, mais il n'y a pas. Écoute, c'est vraiment le coaching. C'est vraiment le fait d'avoir commencé jeune dans le coaching qui a fait que ça a déboulé vers le recrutement. Comme je disais tantôt, j'ai commencé là, à 16 ans dans le coaching, puis je faisais des écoles de hockey l'été. Et puis, il y a une des écoles de hockey que j'ai fait, que Yannick Lemay était, lui, à ce moment-là, il était prof d'éducation physique. Il venait de finir son bac à l'Université de Sherbrooke, puis il avait été engagé par l'organisation 2A de mon coin pour diriger l'école de hockey avec d'autres élèves en éducation physique. Puis moi, je faisais partie des entraîneurs avec eux autres, fait qu'on s'est connus comme ça. Et puis, fil en aiguille, ben Yannick, il venait d'obtenir la job là, de recruteur-chef avec le Cap-Breton. Donc, moi, le timing était bon. Lui, il venait de la Rive-Sud aussi, fait qu'il cherchait un nouveau recruteur là, pour s'occuper du territoire de la Rive-Sud. Fait qu'il m'a offert le poste, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'avais déjà la piqûre de ça, puis ça n'a jamais arrêté depuis.
5 ans avec l'Armada, t'as aidé à. Je peux te tutoyer. T'as aidé à bâtir l'équipe en fait. Qu'est-ce qui te rend le plus fier d'avoir accompli avec cette équipe-là pendant 5 ans?
Ben, ça a été spécial de voir l'évolution puis de voir surtout cette équipe-là d'une année à l'autre là, être capable de reprendre ses marques rapidement, si tu veux, là, de jamais vraiment se retrouver. Au fond du classement. Puis c'est un mélange de beaucoup de choses. Ça a été, des choix repêchage, mais ça a été aussi des joueurs ontariens qui ont été invités au travers des années, qui ont aidé là, à faire en sorte que les transitions se fassent de la bonne façon. Puis, tu sais, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs là, aux fans de l'Abitibi, mais même dans les moments où l'équipe a moins bien été, on se rappelle la fameuse série où l'Armada avait éliminé les Foreurs en première ronde, puis les Huskies s'étaient vengés en deuxième ronde, mais c'était quand même un bel accomplissement pour nous autres là, de réussir à vaincre les Foreurs cette année-là. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'était une année après l'autre, là, toujours d'entendre que hey, l'Armada était difficile à jouer contre, puis c'était tout le temps une équipe qui était compétitive. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment valorisant pour le groupe de recruteurs et le personnel hockey en général.
Si je me rappelle bien, cette année-là, Foreurs était deuxième, puis vous autres, 15?
Ce que je me souviens, il me semble que c'était ça, les positions. Puis, lorsque la série a débuté, je pense qu'il parlait du deuxième plus gros écart. Là,
On a-tu perdu JS?
Oh, je te mute, mais je pense que oui. Si c'est pas moi qui a bugué, c'est lui.
Non, c'est pas toi. Claude, je vais checker si je peux le ramener. Non, c'est un bug. Il devrait revenir dans pas trop long. On va attendre un petit peu. En parlant de la question du jour, on l'a remis dans les commentaires. Quel joueur retranché aujourd'hui par le CH avez-vous le plus aimé?
Arbor Jacquet.
Arbor. Florian Jacquet et Owen Beck. Owen Beck, hier, il m'a un peu, je pourrais dire, déçu. La game qu'il a joué, là, c'était... Je trouvais pas qu'il était à sa place. Je peux répondre à la question. Ouais, vas-y, je m'excuse. Allô.
Non, mais je me suis dit, tant qu'à faire. J'allais répondre dans les commentaires de toute manière, là, mais regarde, je trouve que c'est intéressant. Là. C'est ça, il y a eu la première coupure. Là, on a vu Gignac et Condotta se faire couper tantôt. Mais moi, je vais y aller avec un nom qui a été un peu, selon moi, sous-estimé depuis qu'on l'a, là, puis c'est Jared Davidson. Selon moi, ce gars-là, il a qu'est-ce qu'il faut pour être sur un troisième, quatrième trio. Ça veut dire il a de l'énergie. Il n'a pas peur des confrontations physiques. Il n'a pas peur de frapper les autres. Il a un très, très bon tir. Donc, moi, en tout cas, l'année passée, il a été sous-utilisé à Laval. Puis c'était un normal en termes de... C'était une recrue. Il y avait plusieurs autres joueurs à voir jouer. Mais je pense vraiment que Davidson a une chance de faire la Ligue au long terme. Là, s'il y avait bien un gars qu'on devait regarder, là, je trouve que Jared Davidson, il a laissé une belle carte de passage. Je ne sais pas, Zach, je t'ai vu dire allô. Là, ben, pas allô, je t'ai vu dire oui. Je ne sais pas si tu as vu des choses semblables que moi, mais en tout cas, moi, je trouve que Jared Davidson, il a vraiment fait un beau camp, puis personne n'en parle. Fait que...
Hier, Condotta m'a surpris un peu à défense, parce qu'on roulait à quatre défenseurs, puis il y avait un poste de défenseur, c'était assez surprenant. Ouais,
je trouve que ça prouve que l'état-major et tout aiment la présence de Condotta. Est-ce qu'on est en train de dire à Condotta, tu es le premier à être call-up, puis je pense que c'est un peu juste de base que ça va être plus les jeunes qui vont être montés, s'il devait avoir quelqu'un à monter. Mais tu sais, on ne sait jamais, un Condotta, il a 25-26 ans, justement, il joue bien dans les deux sens de la patinoire. Mais tu sais, après, c'est ça, c'est un Gignac. Gignac n'a pas eu beaucoup de chance de se prouver ce camp-ci. Je pense que l'année dernière, il avait eu plus de chance. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de voir aussi, surtout, qui reste en ce moment dans l'équipe. Justement, là, on vient de voir Jérémy qui dit Jacob Daubèche, mais Daubèche est encore là. Adam Engström est encore là. Donc, c'est des... Emil Heinemann est encore là. C'est ça, il y a des joueurs que clairement, soit c'est « OK, Heinemann, il faut vraiment que tu nous prouves que tu es premier call-up ou que tu es carrément le 13e attaquant ou 12e attaquant. » Mais je pense que c'est ça, tu sais, Méchard, il y a eu un match, je pense, puis ça a arrêté là, dans le sens que lui, c'est vraiment, il faut qu'il domine la Ligue américaine. Puis quand je dis domine, je pense que c'est rien de moins, là. Pour un joueur de ce type-là, d'offensive, tu dois dominer la AHL. Si tu ne domines pas la AHL, tu n'as rien d'autre à amener. Contrairement à, justement, à Jared Davidson.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Engström, il m'a surpris aussi les matchs qu'il a joués, même pendant le camp des recrues.
Il a un excellent coup de patin. Il
contrôle bien la rondelle. Puis, même Oliver Kapanen, c'est ce gars-là, je ne sais pas quoi dire de plus.
Ce qui est excitant avec les joueurs qui sont en Europe, qu'on voit moins, qu'on connaît moins, c'est ça, c'est quand il débarque, la plupart du temps, tu fais « wow, OK, lui existait, puis on ne savait pas ». Je vais donner un exemple pour les Leafs, mais il y a Nikita Grebenkin, le numéro 71, qui est un Russe. Il a 21 ans, il a fait 40 points dans 60 matchs l'année passée dans la KHL. Personne ne le connaissait, même dans l'entourage des Leafs, là, dans le sens, quand je dis l'entourage, les fans et les médias ne parlaient pas de Nikita Grebenkin tant que ça. Et là, il débarque cette année et il est déjà dans les 5 premières lignes. Là. Donc, est-ce qu'il va vraiment faire la Ligue nationale? Ça m'étonnerait juste parce que les livres sont tellement profonds que c'est quoi les chances qu'un jeune de même prenne sa place. Mais, tu sais, moi, ça ne m'étonnerait pas justement qu'un gars comme Grebenkin, dans un ou deux mois, s'il y a des blessures, ou une ou deux blessures, je devrais dire, prenne sa place. Mais bon, notre invité est de retour.
C'est bon, salut.
Ça va très bien.
C'est bien correct.
La beauté du direct, dis-je.
Ouais, drette ça.
Désolé.
On était ouais. C'est qu'est-ce qu'on discutait, non?
On parlait de l'Armada. Puis,
l'Armada, OK.
Non, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est l'identité à la fin, c'était ça. C'était une équipe qui travaillait tout le temps et qui était difficile à jouer contre. Fait que vraiment, au travers des années, là, c'est la culture qui s'est installée. Puis, je pense qu'on continue à surfer là-dessus, même dans les dernières saisons aussi. C'est jamais facile d'aller jouer à Blainville.
Non, puis côtoyer Joël Bouchard, ça doit être un homme assez... Ben, c'est un homme important, oui, mais c'est un homme qui...
Mais ce qui est spécial avec Joël, là, c'est que... On a l'impression au travers de comment il fonctionne que ça passe beaucoup dans ses mains à lui, mais c'est un gars qui délègue beaucoup, puis c'est un gars qui consulte beaucoup, puis c'est un gars qui prend soin de son monde. T'sais, moi, anecdote vite, là... Quand on a repêché Joël Teasdale, moi, Joël, c'était mon ex-beau-fils, dans le fond. Mm-hmm. Et Joël ne m'en avait pas parlé du tout de ce qu'il avait décidé de faire. Puis le repêchage était à Sherbrooke. Puis on avait réussi à faire un échange pour le 11e ou le 12e choix overall là, sur le plancher avec les Saguenay et Chicoutimi. Et puis on venait juste de faire le choix d'Antoine Craig-Belzile juste avant. Puis Joël était venu me voir pour me dire « JS, on vient d'obtenir le prochain choix, tu sais, puis j'aimerais ça que tu montes sur le stage avec nous, vu qu'on va repêcher Joël, tu sais, je veux que tu sois là quand il va monter sur le stage. » C'est la seule chose qu'il m'avait dit.
Okay.
Quand on est arrivé sur le stage, moi, j'étais allé m'installer au bout complètement. On a serré la main à M. Courteau, puis je me suis éloigné, je me suis en allé le plus loin possible.
Ouais.
Puis, il est arrivé au micro, puis il a dit pour la prochaine sélection, choix sentimental, j'aimerais ça donner l'occasion à notre recruteur Jean-Sébastien Perron de faire l'annonce de la sélection. Et je vous le dis, là, moi j'étais au bout, puis j'ai absolument rien entendu de ce qu'il a dit. C'est Danny Gauthier, notre recruteur chef, qui m'a donné un coup de coude. Dit, hey, ah ouais, il vient de taper pour nous. Et, je vous le jure, les gars, là, de où j'étais jusqu'au micro, là, c'est peut-être 5 secondes de marche. J'ai eu l'impression de marcher pendant 2 heures de temps. J'avais le shake, j'étais nerveux, j'en revenais pas. Puis, ça a été exceptionnel comme moment. Là. Mais tu sais, Joël, c'était ça. Il prend soin de son monde, puis il implique tout le monde avec lui dans le processus. Puis, il parle beaucoup de processus, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans le hockey, mais Joël en parle beaucoup lui aussi, là, puis il est là-dedans tous les jours.
C'est pas pour rien qu'il coach encore dans NHL.
Non, exact.
Quand tu étais à Blainville-Boisbriand, l'équipe a repêché Samuel Montembeau, il était un choix de 3e ronde, 40e au total. Est-ce que tu l'avais évalué un peu, Samuel, ou c'était...
Oui, comme tous les autres recruteurs du groupe de l'Armada, mais honnêtement, on avait un scout de la région de la Mauricie qui avait vraiment poussé beaucoup pour lui. Puis, on était déjà surpris qu'il n'ait pas été repêché l'année d'avant à 15 ans, donc... Et à 16 ans, là, il était disponible au moment où on a parlé. Puis ça, c'est un peu tout le temps ça au repêchage. Hein, t'as beau aimer des joueurs, il y a bien des joueurs qu'on veut repêcher, mais l'important, c'est qu'ils soient disponibles quand c'est à notre tour de parler. Puis ça a donné qu'il était encore là. Puis c'est clair qu'on s'est dépêché à sauter dessus. Puis il a rendu des fiers services à l'Armada là, pendant tout son passage. Puis il a laissé sa marque. Là, son chandail a été retiré et tout. Là, fait que, non, c'était une bonne sélection.
Est-ce qu'il y a une position ou un type de joueur qui est plus dur à pas scouter, là, ce serait quoi le mot?
Évaluer, recruter, peu importe.
Ouais. Est-ce qu'il y en a un plus dur un peu?
Ben, c'est certain que les gardiens de but, on va se le dire, là, tu sais, j'ai pas la prétention de commencer à vous dire que je suis un expert de gardien de but. Donc, c'est clair que pour les gardiens, on va se partager la tâche avec le coach des gardiens de but, que lui aussi va faire des viewings, des choses comme ça. Puis, on va essayer d'aller chercher des indices un peu plus généraux. Puis, c'est vraiment l'entraîneur des gardiens qui, lui, va pousser l'évaluation un petit peu plus loin. Mais sinon, après ça, que ce soit défenseur ou attaquant, ils ont tous des qualités différentes, des choses qu'on recherche qui vont être différentes d'un joueur à l'autre. Mais je pense que c'est vraiment la position de gardien là, qui fait en sorte des fois qu'on va se casser la tête peut-être un petit peu plus là, dans l'évaluation qu'on va en faire. Là.
On est bizarre, les gardiens de but, pareil. On se le fait souvent dire.
Les gardiens, je ne voulais pas vous insulter.
non, c'est correct. Seb, vas-y, je te laisse la prochaine.
Tu es arrivé à Drummondville, puis l'année suivante, l'équipe était bâtie comme pour les séries, comme recruteur. Comment on vit un changement après pour la, comme on pourrait dire, la reconstruction?
Oui, bien, c'est sûr que c'était un gros défi. Puis, veux pas, comme tu l'as dit, quand on est arrivé, il y avait déjà un noyau d'installer. Dom Charme a fait les transactions nécessaires, les mouvements de joueurs nécessaires pour faire en sorte qu'on arrive. Il avait quitté, c'était Steve qui était rendu entraîneur-chef à ce moment-là, mais 2018-2019, on avait l'édition qu'on a eue qui s'est rendue jusqu'en demi-finale. Mm-hmm. Mais après ça, nous autres, c'est de continuer à évaluer les besoins de l'équipe, essayer de rebâtir ça le plus rapidement possible, mais ça passe au travail justement les besoins. T'sais, qu'est-ce qui est encore présent la saison suivante? T'essaies de faire une projection, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le contrôle des transactions qui se font non plus, mais c'est clair que nous autres, en sachant qu'un P.O. Joseph ne revenait pas, qu'il y avait plusieurs joueurs là, qui ne revenaient pas l'année suivante, il a fallu y aller, là, peut-être un petit peu plus avec les défenseurs, puis après ça, on a rentré. On avait la chance d'avoir déjà Simono Mercer qui revenait quand même, qui n'avait pas été échangé là, au travers les différents mouvements joueurs. Fait qu'on ne repartait pas à zéro. Ça aussi, c'est quand même le fun. Là. Si tu regardes il y a deux ans, après Saint-John, quand il avait gagné la Coupe Memorial, l'année suivante, avec le nombre de vétérans qu'il y avait qui étaient partis, puis tout, là, ça devient difficile de rebâtir à ce moment-là. Mais nous, c'est pas ça. Là, on s'était pas rendu au bout, mais même en ayant atteint la demi-finale, on avait accompli quelque chose, mais on avait quand même un noyau là, avec Mercer, Simono, Thomas Pelletier, des gars comme ça, là, Nicolas Giroir aussi qui revenait, ces choses-là. Fait que ça avait quand même bien été là, pour rebâtir.
On parlait de l'année passée, année exceptionnelle, on va se le dire, jusqu'à la levée du premier trophée Gilles Courtois. C'est-tu le premier ou le deuxième?
Deuxième. Deuxième, on avait gagné, les Voltigeurs avaient gagné 2009 avec Guy Boucher. Marc-Olivier Vachon comme capitaine à 17 ans dans l'alignement. C'était une gang spéciale. Yannick Riendo qui arrivait des Huskies qui avait été incroyable comme 20 ans avec les Voltigeurs. Donc ça, c'était la première fois qu'il avait gagné. Il avait battu les Cataractes que moi, j'avais été adjoint une couple d'années avant. Il y avait un noyau de joueurs dans les Cataractes que je connaissais bien, là, les McNichol, les Simon Lacroix, Adam Leblanc-Bourque, des gars comme ça. C'est tous des gars que j'avais côtoyés, là, qui étaient rentrés jeunes avec les Cataractes, puis là, ils arrivaient à maturité. Mais je me rappelle encore d'être dans les estrades, puis de voir McNichol lancer ça dans le filet en haut avec 5-6 secondes à faire, là, rater un but désert presque là, à 6 contre 5. Les estrades étaient pleines, mais le monde de Shawinigan était extrêmement déçu, mais Drummondville, eux autres, ça venait de donner le signal que c'était gagné. Fait que 2009, c'était la première, mais l'année passée, un bel accomplissement là, du groupe de joueurs. C'est vraiment une belle saison, comme tu as mentionné.
Fait que pour continuer sur l'année passée, comment vous avez vécu ce moment-là? Puis on a la belle photo de toi qui lève la coupe. Je ne sais pas si on peut la mettre un petit 5 secondes. Ça serait bien en avant de nous.
je peux la mettre, là. Attends, ce ne sera pas bien. Le retrouver.
Ben d'abord, en attendant, je vais continuer. Est-ce que le groupe de recruteurs, vous avez pu vivre le lever de la bannière et tout ça, ou vous n'étiez pas à l'aréna?
On était, la semaine passée, on était là pour le lever de la bannière. Il manquait un ou deux recruteurs, là, mais la grosse majorité du personnel était là. Puis la finale, le match 4, là, on était pas mal tous sur place, sauf un de nos deux recruteurs des Maritimes qui ne pouvait pas être là. Mais tous les autres étaient là.
On a la photo, a la photo de ta page Facebook. Ouais.
Tu sais, ça, là, c'est, je vois la photo, là, puis c'est un moment spécial, puis ça me donne un coup de vieux en même temps, parce qu'Olivier Michaud, qui est notre coach et gardien de but, c'était un de nos gardiens à ma deuxième année de coaching quand j'étais adjoint à la tombe 2B. Ça te donne une idée. Quand tu vois des choses comme ça, tu dis, ouais, ça commence à faire un petit bout que tu fais du hockey. Mais non, moment incroyable, tu sais. Mis à part les deux saisons avec les Cataractes, là, c'est, ça faisait 26 saisons, là, 25 saisons. C'était ma 25e année passée comme recruteur. C'était la première fois que j'étais associé avec une équipe qui se rendait en finale, pas juste qui gagnait le trophée des champions, le trophée Gilles Courteau. C'était la première fois en finale. Fait que quand je l'ai levé, là, je vais te dire, c'est beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de personnes, beaucoup d'événements là, qui te viennent en tête là, auxquels tu as passé au travers, puis que tu as énormément de personnes là, qui m'ont aidé dans ce parcours-là. Fait que c'est clair que c'est à eux que j'ai pensé. Puis aussi, ben, c'est le moment qui consacre l'équipe, mais il y a tellement de choses qui se sont passées au travers les 4-5 saisons avant de lever ce trophée-là pour permettre d'en arriver là. Fait que c'est tout ça qui te vient en tête quand tu finis par mettre la main sur un trophée comme ça puis pouvoir le soulever. C'est vraiment incroyable. Puis en plus d'avoir l'opportunité de le faire à Drummondville, là, on a vu cette photo-là, mais moi, j'ai une photo là, ils nous ont partagé ça. Le bureau administratif nous a envoyé ça la semaine passée. Fait que c'est rendu le screensaver de tous les membres de l'organisation, mais c'est notre photo d'équipe. Puis, tu sais, tu vois sur la photo, tu vois le groupe de joueurs, tu vois le personnel hockey qui est tout avec les joueurs, mais tu vois aussi en background tous les spectateurs qui sont dans l'aréna, qui sont derrière nous, là, le côté local, derrière nous. Fait que, ça te permet de voir là, que tout le monde que ça touche, dans le fond, là, c'est pas seulement les joueurs, c'est pas seulement le personnel hockey, c'est les partisans, c'est le personnel administratif qui était là aussi. C'est vraiment là, un bel accomplissement. Là. C'est toute une gang qu'on avait, puis la grosse majorité sont de retour. Fait que ça va être le fun de voir la suite avec eux autres aussi.
Si je ne me trompe pas, il me semble que vous aviez donné aucune chance à Bécomo qui est en train de tout tuer pendant toute la saison.
Nous autres, on savait, je me rappelle, Denis Gauthier était interviewé par Stéphane Leroux sur la glace après le match, puis tout le monde était un peu dans le même vibe que lui. Il disait, nous autres, on y croyait, puis c'était vraiment ça. Oui, on était premiers au Canada une grande partie de la saison, puis c'était mérité. Je veux dire, ils n'ont rien volé de ça, puis oui, on était dominants tout au long de la saison. Mais on les avait quand même battus, je pense que c'est deux ou trois fois en saison régulière. Ça fait qu'en quelque part, les gars savaient qu'on était capable de compétitionner avec eux. Puis après ça, ben c'est clair que ça te prend les bounces, ça te prend les occasions qui viennent puis d'être l'opportuniste. On va se dire Riley Mercer était sublime là, dans les quatre matchs de série-là. Il n'a pas donné grand-chose. Puis à chaque fois, on dirait qu'on avait besoin d'un gros jeu, d'un gros but. Ben, on a trouvé moyen d'aller le chercher. Puis, le début du match numéro un, premier avantage numérique, boum, tout de suite, Alexis Gendron qui compte un gros but tout de suite en partant. Ça a vraiment donné le ton. Puis, le but d'Ethan Gauthier en prolongation, deuxième match. Troisième match, on est parti en fou, c'était 4-0. En fin de première période, on n'a pas donné de chance. Les autres reviennent de deux grosses défaites à domicile, puis arrivent chez nous, puis tout de suite, c'est 4-0 pour la première période. Fait que j'imagine que mentalement, c'était pas évident pour eux. Puis quatrième match, c'était un match plus serré. C'était un match qu'eux ont failli vraiment revenir au pointage. Je commence à avoir hâte que la dernière seconde sonne à la fin, là, parce que les deux derniers buts, dans la dernière minute, pour ramener ça à 4-3, je pense. Ça devenait un peu trop chaud à notre goût. Mais non, on ne leur a pas donné. Comme tu dis, c'est clair qu'on était prêts. Sylvain, le groupe d'entraîneurs, avait préparé notre équipe là, du début à la fin à être dans le processus. Puis ils sont arrivés dans la série, les joueurs avaient buy-in là-dedans beaucoup. Puis ça s'est juste poursuivi pendant la finale.
Si je ne me trompe pas, la Maverick Lamoureux était blessé toutes les séries.
Oui.
En plus,
l'opération, t'as blessé une épaule. Je pense que Maverick aurait aimé jouer, mais en même temps, la priorité, là, c'était sa santé. Puis, c'était pas question d'aggraver ça ou quoi que ce soit. Donc, la décision qui avait été prise là, conjointement avec l'organisation des Coyotes, c'était qu'il se fasse opérer immédiatement. Donc, pas jouer des séries. Je pense que l'acquisition de Komarov a fait en sorte qu'elle prenait tout son sens à ce moment-là. Au début, je me promenais dans les arénas après la période d'échange. Puis il y a beaucoup de monde qui me disait, vous aviez déjà Lamoureux, vous aviez déjà Diot, Baudry, Rotondi, Brunet avaient une bonne saison, Gaudreau aussi. Pourquoi aller chercher Komarov? Mais c'était ça. On savait qu'on mettait la main sur un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de la Ligue. Puis, t'as jamais assez de profondeur quand tu veux te rendre jusqu'au bout. Puis, quand il est arrivé la malchance à Maverick, puis qu'on a su qu'il n'était pas pour jouer des séries, qu'il n'était pas pour jouer du reste de la saison, ben, on était très content d'avoir Komarov à ce moment-là.
Tu as parlé un peu de l'échange de Komarov, mais aussi Gendron, son échange, c'est un échange inattendu. Il n'y a pas grand monde dans le monde du hockey qui pensait qu'elle allait revenir dans le junior.
Oui, exact. Puis c'est ça. À un moment donné, quand je disais que ça te prend les bounces, c'est pas juste dans des circonstances en match. Effectivement, c'était pas un des 20 ans qui était profilé pour revenir à finir la saison dans le junior. Puis finalement, de fil en aiguille, il y avait moins de temps de glace à Lehigh Valley. Puis l'opportunité de revenir jouer junior, je pense, puis d'avoir plus d'occasions de pouvoir jouer, puis d'avoir de répétitions, ça lui parlait. Puis les discussions ont été entamées avec Gatineau, puis ça a bien tourné pour nous autres. Mm-hmm. Mais c'est clair qu'Alexis, là. Et puis Lucien était blessé à un moment donné, on avait hâte qu'il revienne au jeu aussi parce qu'il a manqué, il a manqué la première ronde des séries. Mais c'est clair que quand il est revenu au jeu, là, ça a été un gros ajout pour nous autres là, dans la ronde de séries.
Il y a deux semaines, tu as célébré à la levée de la coupe, je pense à Cash, tu m'avais parlé. Puis la semaine dernière, c'était la levée de la bannière. Ouais. Est-ce que c'est là qu'on voit tout le travail des dernières années?
Ah, 100%. Tu sais, je veux dire... Comme tu dis, moi, j'ai la dernière fin de semaine, dans le fond, où l'équipe avait la possession de la coupe, le samedi, on avait une journée avec notre staff de recruteurs. On a passé la journée avec. On est allé jouer au golf. On a fait une surprise à Stéphane Desroches, qui est celui, dans le fond, qui m'avait permis d'obtenir une entrevue pour le poste de recruteur-chef. Quand il y a eu l'embauche de Dominique Ducharme, Stéphane était devenu adjoint au DG, puis on avait été recruteurs ensemble au Junior de Montréal, puis avec l'Armada. Fait que il avait poussé à Dom. Dom me connaissait déjà un petit peu parce que quand il était adjoint au Junior de Montréal, on s'était côtoyés là aussi. Mais c'est vraiment, à un moment donné, c'est important de se rappeler d'où tu viens. Puis une des raisons principales pour laquelle moi j'avais la chance d'avoir été engagé à Drummondville, c'est parce que Stéphane avait soumis mon nom à Dominique, puis le reste a suivi. Fait que, tout ça mis ensemble, on a dit on va aller faire une surprise à Steph. Fait qu'on est allé jouer. On l'a rencontré au terrain de golf à Joliette avec la coupe. Il pensait qu'il s'en venait jouer une petite partie normale avec moi, puis un de nos recruteurs qui est un de ses chums d'enfance. Puis finalement, tout le staff était là, puis on avait amené le trophée avec nous autres. Fait qu'on a passé une belle journée là. Puis le lendemain, moi, je l'ai amené chez nous à Saint-Basile parce que je n'avais pas assez de place pour amener tout mon monde chez nous dans ma cour. Puis en même temps, je me disais, belle occasion là, d'amener ça où ça a commencé pour moi. Tu sais, ça a vraiment commencé à l'arrivée à Saint-Basile comme joueur, comme coach. Après ça, les choses ont suivi. Mais tu sais, de pouvoir remercier mes proches, là, cette journée-là, à l'aréna Jean Rougeau, en même temps faire un clin d'œil à des personnes là, qui m'ont aidé au travers de mon passage. C'était quelque chose de bien le fun à faire. Puis, comme vous dites, c'est rare que ça arrive. Je ne sais pas c'est quand la prochaine, si ça va arriver. Tu sais, je vous le disais tantôt, 25 ans avant que ça arrive. Fait que, tant qu'à ne pas savoir quand est-ce que ça va se reproduire, on voulait en profiter au maximum.
Oui. On a une bonne question de notre perdu. Non, c'est pas vrai. Notre Nicolas, merci. D'abord, tu étais un partisan de quelle équipe étant plus jeune? Quelle équipe suivais-tu dans la
LHL? Au départ, je veux pas par la force des choses. Moi, ça a été beaucoup le Laser de Saint-Hyacinthe parce que, comme j'ai mentionné, moi, je viens de Saint-Basile. Fait que, à ce moment-là, on avait la chance d'avoir une concession qui était pas loin de chez nous. Fait que, j'ai eu la chance de voir Martin Brodeur. J'ai eu la chance de voir. Martin Gendron, c'est ça, c'est Laser au début, mais les premiers vrais amours, je dirais, Titan de Laval, parce que on avait un gars de chez nous, Éric Dubois, qui était originaire de Saint-Basile, Éric qui était défenseur pour le Titan de Laval. Éric, c'est le père de Pierre-Luc, qui joue dans la Ligue nationale en ce moment. Puis Éric a joué, je pense, c'est 3 ou 4 saisons avec le Titan de Laval, puis c'était un des premiers grands Basilois là, à jouer dans les juniors majeurs du Québec. Fait qu'au début, ça a été le Titan, mais après ça, quand le Laser est devenu le Laser, ça a été le Laser de Saint-Hyacinthe.
Laser sont rendus à Rouen, ce que Nicolas
nous dit. Exact. Exact.
Ouais, ben lui, c'est ça, il connaît ça. Mais si ton équipe était de Saint-Hyacinthe, de bord, je vais t'en parler vite fait. La nouvelle équipe, LNEH, est-ce que t'aimes ça? Ou...
Ben écoute, moi je trouve que la Ligue a pris une. Un bon changement de philosophie, si tu veux, dans le sens que rien contre les batailles, mais à un moment donné, c'était important que ça devienne un petit peu plus au goût du jour. Fait que, oui, je pense que c'est un calibre super intéressant. Puis de plus en plus, le calibre a toujours été bon, mais je pense que justement, le fait qu'il y ait un petit peu moins de batailles puis que ça joue beaucoup plus au hockey fait en sorte que ça attire une nouvelle clientèle. Je pense que ceux qui étaient là, peut-être un petit peu plus justement pour le côté bataille. Je ne pense pas qu'ils ont délaissé au complet, mais en même temps, ben, ça renouvelle la clientèle pour ceux là, qui ont le goût de venir jouer de venir voir des beaux jeux puis du hockey offensif. Là.
Moi, ce que j'aime, c'est que ça vient de deux amis qui ont un podcast. Fait que dans une couple d'années, les Bûcherons de Val-d'Or, ça va exister.
Ah ben, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Si ça peut faire en sorte que ça débarque chez vous aussi, moi, je n'ai pas de problème avec ça.
Non, mais prochainement, on a commandité quelque chose, on n'en parle pas plus, mais ça va s'en venir
okay,
la prochaine semaine.
On va avoir un scoop, on va suivre ça. C'est bon.
À quoi peut ressembler votre saison durant une saison? Non, à quoi peut ressembler votre horaire durant une saison en tant que recruteur? Tu dois te promener pas mal.
Ben, c'est sûr que comme recruteur-chef, le territoire à couvrir, c'est le territoire complet de la LHJMQ. Là. Donc, dans les prochaines semaines, je pars pour Dieppe. Depuis 2 ans, il y a un nouvel événement, là, Coupe LHJMQ, mais côté maritime. Fait que dans le fond, ils font une équipe des meilleurs joueurs de 15 ans. Cette année, c'est de 2009, là, mais les meilleurs joueurs de Terre-Neuve, une équipe du Nouveau-Brunswick, une équipe de l'île du Prince-Édouard, une équipe de la Nouvelle-Écosse. Ça va avoir lieu mi-octobre. Après ça, tu vas avoir le premier tournoi U17. Je suis sur le bord de dire Midget Espoir, mais il faut dire U17 maintenant, U17-3. Fait que ce tournoi-là, ensuite, tu vas avoir différents tournois scolaires. Tu as le challenge U18-3, toujours aux fêtes, là, mais qui est rendu à Châteauguay. Il y a toujours 2 événements, nous autres, qu'on couvre aussi, qui sont le Monctonian, qui est un tournoi U18-3, toutes les équipes des Maritimes. Même chose avec le Ice Jam à Halifax, qui, lui, est au mois de janvier. Puis au travers de ça, ben, ça dépend des équipes, mais tu vas pouvoir être appelé à aller au championnat du monde des moins de 18 ans au mois d'avril. Il y a évidemment le Combine qui a lieu à Boisbriand à chaque fin de saison là, pour permettre d'évaluer une dernière fois là, tous les joueurs, là, autant maritime que Québec. Donc, c'est beaucoup. Au travers de ça, ben, il y a les matchs de saison régulière, tout ce qui est U18-3, U17-3. Il y a beaucoup de scolaires maintenant. Ça, c'est la nouvelle réalité. T'sais, avant, tu recrutais des joueurs, c'était le Midget Espoir, le Midget 3, puis... un petit peu de Midget 2A. Maintenant, c'est du juvénile, c'est du M15D1, parce qu'il peut y avoir des late secondaire 3 qui sont quand même éligibles au repêchage, mais qui jouent dans l'M15. Fait qu'il faut peut-être voir le M15 aussi. Fait qu'à la fin, là, les gars, je vous dirais, c'est tout le temps autour de 300-350 matchs de hockey par saison, plus des visionnements pour des gars de l'extérieur. C'est de plus en plus, si vous regardez, là, à chaque année, tu as des joueurs du Québec ou des Maritimes qui vont s'exiler, qui vont aller jouer dans les prep schools américains ou qui vont aller jouer en Ontario ou à différents endroits. Fait qu'on s'entend là, que je n'ai pas les budgets de la Ligue nationale. Là, fait que je suis toujours en train de me déplacer pour aller voir ces équipes-là week-end après week-end. Fait que là, c'est des visionnements à distance à ce moment-là. Fait que tout ça mis ensemble, là, on n'a pas beaucoup de temps libre. C'est une passion, on le fait parce qu'on aime ça, mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de congés en bout de ligne. Quand le repêchage de la Ligue nationale c'est fini, ben le mercredi d'après, c'est le repêchage euro. Depuis 3-4 ans, le repêchage euro, là, c'est la première semaine de juillet. Et quand le repêchage euro finit, là, on en profite. Jusqu'à Mio, on respire juste un petit peu.
Ta réponse a fait réagir. On a une bonne question en particulier. En tant que recruteur, tu dois visiter pas mal de petites arénas de toutes sortes. Quelle est ta pire expérience au niveau des installations?
Hey boy, pire expérience. Ben, il y en a quelques-unes, mais je te dirais, c'est beaucoup les arénas où il y a des colonnes qui font en sorte de pas pouvoir nécessairement voir l'action d'un bout à l'autre de la glace. Mmh. Je vais te donner un exemple. Heureusement, il n'y a plus beaucoup de matchs qui sont disputés là, mais l'aréna à Saint-Lambert, tu sais, moi, je suis de la Rive-Sud, fait que quand il y avait des matchs, Saint-Lambert, c'est sur le territoire de Collège français, fait que souvent, il y avait des matchs soit Bantam 2A ou Bantam 3A dans le temps, puis là, Espoir, puis tu es obligé d'aller voir un match-là. C'est difficile de voir l'action d'un bout à l'autre. À ce moment-là, c'est plus compliqué. Mais sinon, tu sais, chaque aréna ont leur complexité ou leur défaut. Si tu veux, quand je parlais du Ice Jam à Halifax, tu vas parler à n'importe quel recruteur. Les gars savent que quand on s'en va au Ice Jam à Halifax, on amène un manteau d'extra, puis c'est pas rare qu'ils arrivent là avec leur truc ou le café chaud, parce que tu sais que tu t'en vas passer la journée-là, t'es dans l'humidité, t'es dans le froid, puis c'est du matin au soir, il n'y a pas de pardon.
Sans manette Saint-Félix, en Abitibi.
C'est possible.
On a une question de Félix qui dit, au contraire de cette question, laquelle est ta meilleure expérience?
Écoute, meilleure expérience... Bien, c'est sûr qu'il y a des nouveaux buildings. Tu sais, si tu regardes Rivière-du-Loup, bon, ben là, ça fait une couple d'années, mais le centre première tech, m'a dit, pour aller recruter, pour aller faire du recrutement pour un match U18-3, là, c'est des belles installations, puis c'est vaste, il y a beaucoup de place. Je pense qu'il n'y a pas une mauvaise place dans l'aréna pour pouvoir regarder le match. Là, tu sais, peu importe où tu es assis ou tu vas être bien assis, puis tu vas avoir des bons angles. Fait que, je pense que ça, c'est un des bons endroits. Branchot-Brière aussi, qui est un nouveau complexe aussi, là, fait peut-être une dizaine d'années là, que ça fonctionne là-bas à Gatineau. Je pense que c'est un centre qui est pas mal adéquat aussi là, pour le M18-3. Dans le fond, c'est d'avoir des arénas où il y a quand même assez de place pour pouvoir s'asseoir ou pouvoir observer le match de la bonne façon, mais sans être tout tassé. Puis, avoir les meilleurs angles possibles. Ça, je pense que c'est deux endroits qui répondent bien à ça.
Good. Tu as parlé un peu du repêchage de LNH. J'avais vu sur ta page que tu avais été au repêchage à Vegas. Ouais. Dans la soirée, comment tu as vécu cette expérience-là?
Incroyable. C'est tout ce qu'on réussit à faire en utilisant la sphère là, comme image, comme montage, comme... Écoute, c'était interactif. C'était un point tel qu'à un moment donné, ça devenait difficile de se concentrer sur le repêchage en tant que tel. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. Puis nous autres, en plus, d'avoir l'opportunité de voir Simon-Pierre Brunet là, qui était repêché là-bas. Malheureusement, il n'était pas sur place parce que même lui croyait plus ou moins en ses chances d'eux. Fait que je pense qu'il ne voulait pas dépenser de l'argent ou quoi que ce soit là, à lui et sa famille puis être sur place pour pas nécessairement être sélectionné, là, mais le site était incroyable. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider dans les prochaines années, parce qu'il avait dit que c'était pour être le dernier repêchage en présentiel, puis il voulait peut-être copier la formule de la NBA puis la NFL, mais tu sais, j'ose croire que de l'avoir fait là-bas, puis de toute l'exposure, toute l'attention que ça a mis sur la LNH, de le faire à cet endroit-là, ça peut peut-être leur avoir donné l'idée de répéter l'expérience pour les prochaines années là-bas aussi, là, je ne sais pas, mais c'était vraiment incroyable. C'était vraiment une fin de semaine là, bien remplie. Là.
Moi, je suis d'accord avec ça. Ça doit être à Vegas. On ne change pas la place, mais s'il vous plaît, pas comme dans la NFL. La LNH devient la ligue la plus wannabe qui existe. Là. Faites vos bonnes affaires. Là.
Non, je suis d'accord. Exact.
Et puis, aussi... Vas-y. Non, ça, je voulais dire, tu sais, mettons, en première ronde, il y avait 2-3 personnes qui montaient. C'était pas tout le monde. Mais après ça, il allait prendre la photo. C'était quand même intéressant aussi.
Ah, 100%. Puis, Canadien avait volé le show avec Céline Dion en plus. Fait que... Il n'y a pas personne dans la place qui n'était pas surpris de voir Céline Dion débarquer là. Fait que, tu sais, quand tu y repensais après, tu te dis que c'était un naturel, mais en même temps, c'était vraiment un beau flash de l'organisation du Canadien. Mm-hmm.
Félix, de commentaire, cette question-là va y être posée dans vraiment bientôt. sinon, Nicolas, quel est le joueur que tu as recruté et tu te dis « Hey, lui, je l'avais dans mes notes et il est devenu un joueur incroyable ».
Ben écoute, c'est pas moi, c'est le groupe de recruteurs, mais tu sais, si tu regardes un gars comme William Trudeau, qu'on a sélectionné en 12e ronde, tu sais, je veux dire, c'est quand même incroyable de penser que le jeune est sélectionné en 12e ronde pour le junior, puis quelques années plus tard, il sort en 4e ronde dans la Ligue nationale. Mais tu sais, c'est. Puis là, on se comptera pas de cachette. Je suis pas en train de vous dire que nous autres, on savait qu'il était pour être recruté, qu'il était pour être sélectionné dans la Ligue nationale après. On était conscient qu'il y avait un beau potentiel. Puis moi, Will, moi, Jean-Philippe, un de nos recruteurs, on le connaissait de Mortagne. C'était un kid qui était au programme hockey où je travaillais à ce moment-là. Fait qu'on avait eu l'opportunité de voir la progression là, depuis niveau Pee-Wee. Puis il n'a jamais juste arrêté de progresser depuis ce temps-là. Il a un sens de hockey hors pair. Puis c'est un kid de. Génial, c'est éthique de travail, c'est une bonne personne, c'est un gars terre à terre, là, on le croise aujourd'hui, puis c'est le même kid avec lequel on jasait qui jouait Bantam ou Midget à Damortagne. Fait que pas surpris de voir qu'il est resté le même, mais sa progression est vraiment impressionnante.
Quels sont les grades de recruteur à directeur du recrutement? Comment y a-t-il plusieurs grades?
Il n'y a pas de grade en tant que tel. Il y a différentes façons de fonctionner au travail des organisations. Tu sais, tu vas voir, il y a des équipes qui ont un recruteur-chef, qui ont un recruteur-chef adjoint, puis il y a des recruteurs. Tu sais, je pense que ça, c'est personnel à chacune des organisations. Mm-hmm. Tu sais, à la fin, moi, je pense que le défi, là, c'est que de faire sentir à chacun de tes recruteurs qui font partie du processus de décision, qui sont consultés, qui sont écoutés. Chacun va émettre son opinion. À la fin, le recruteur-chef est là pour trancher, puis c'est important qu'il y ait une personne qui tranche. Mais à chaque fois qu'on a une sélection à faire, là, le défi, là, c'est que chacun de nos gars sente qu'ils ont été écoutés, qu'ils ont eu le droit de donner leur opinion sur le joueur. Puis à la fin, ils sont d'accord ou ne sont pas nécessairement d'accord, mais c'est une décision qui a été faite là, en consultant le groupe. Là.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui écoute ça, mais après chaque repêchage, les Canadiens nous mettent une vidéo de comment ça s'est passé en background. Puis ça, justement, je veux te poser la question. Concrètement, le rôle d'un recruteur à cette table-là, c'est quoi?
Bien, encore là, ça dépend des équipes, du fonctionnement des équipes. Moi, je te dirais, il va y avoir différents rôles qui vont être donnés au travers de la séance. Il y a un recruteur qui va être mandaté de s'assurer du nombre de joueurs d'avant, de défenseurs, de gardiens de but qu'on a sélectionnés, tenir le compte là, pour être sûr que ça fait du sens où on s'en va puis par rapport aux besoins qu'on a, puis ces choses-là. Il y en a qui vont valider parce qu'à un moment donné, tu peux pas, il faut que tu fasses attention de ne pas sélectionner un joueur qui a déjà été sélectionné, fait qu'il y en a un qui va être responsable de vraiment là, barrer le nom de joueur qui est sélectionné pour être sûr que en bout de ligne, qu'il n'y ait pas d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là. Il y a différentes responsabilités comme ça qui sont attribuées, comme je vous disais, tout en étant tout le temps en contact avec chacun d'eux autres là, au niveau de la sélection. Moi, je vous dirais, je n'ai pas été un fan des repêchages COVID, mais les repêchages COVID qui nous ont permis dans notre bunker, on s'entend que le niveau de communication était pas mal plus élevé parce qu'il n'y avait pas... Tu n'avais pas besoin de faire attention que la table de l'autre équipe à côté entende qu'est-ce qu'il se disait ou quoi que ce soit. Fait que là, à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile d'échanger. Mais même dans un repêchage en présentiel comme l'année passée à Moncton ou l'année d'avant à Sherbrooke, on va essayer de garder le niveau de communication le plus élevé possible là, pour être sûr que les gars sont au courant de c'est qui notre prochaine cible, puis est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça, puis on va de l'avant après.
Après la délibération, vous avez votre liste de joueurs, mettons? OK. Ouais. Puis là, c'est sûr que le repêchage, il y a des surprises, il y en a dans votre liste qui se font prendre avant puis tout. Ouais. Est-ce que ça arrive si souvent que ça, que genre 3 minutes avant de monter sur le stage, vous ne savez pas encore quel joueur vous prenez?
C'est sûr que ça va dépendre de ta position, on s'entend, dans le sens que plus tu vas repêcher dans les équipes tôt, tu sais, une équipe qui repêche dans les 3-4 premiers, bon, on s'entend que le scénario entre un nom ou un autre, il est pas mal moins grand qu'une autre équipe. Mais c'est important d'avoir le plan A, B, C, D, E. Est-ce que tu peux te faire prendre par surprise des fois? Ça peut arriver, mais on s'entend que le défi, justement, c'est d'éliminer les zones grises le plus possible, puis que peu importe qu'est-ce qui arrive avant ta sélection, là, que tu sois prêt à te revirer de bord. Ce qui peut changer le portrait des fois, c'est les transactions. Tu sais, c'est déjà arrivé, là, mettons qu'on soit censé repêcher juste en troisième ronde. Finalement, il y a des transactions qui sont faites qui font en sorte que là, finalement, tu parles en début ou en milieu de deuxième ronde. Bien là, tu as besoin d'affaire être prêt, d'avoir suivi comme il faut qu'est-ce qui se passait parce que c'est à toi à parler. Mais en bout de ligne, je pense que l'important, c'est la préparation que tu vas avoir faite avant, comme tu disais, la liste la plus développée possible pour justement être capable là, d'être prêt quand c'est à ton tour à parler.
L'an passé, en sixième ronde, vous avez sélectionné Jean-Simon Marcy. Il joue pour les Forestiers d'Amos. Je pense qu'il a fait quasiment tout le camp à Drummondville, je ne me trompe pas.
Ouais. En fait, JS, il n'a pas sorti l'année passée en 24. Il a sorti en
2023.
Ouais. Ouais. Il était avec les Pionniers de la Naudière. Mm-hmm. Il avait été retranché à Esther Blondin. Il a eu la chance d'être réclamé par les Forestiers. Puis là, il est revenu cette année avec les Forestiers pour débuter une deuxième saison. Il va bien. Sa progression est bonne. C'est un kid qui, physiquement, il est loin d'être à maturité encore. Il est déjà à 5 et 10, 5 et 11, mais je pense qu'il peut juste encore 140 ou 145 livres. Fait que c'est clair qu'il y a encore un peu de viande à rajouter. Puis on s'entend que pour un gardien de but, c'est pas la fin du monde non plus, parce qu'à un moment donné, c'est pas... Il faut qu'il garde sa flexibilité, sa vitesse pour ces choses-là. Mais au niveau endurance pour ces choses-là, je pense de rajouter un peu de poids, ça va l'aider là, sur le long run, parce que le défi, le veut pas, tu arrives au niveau junior, du jour au lendemain, ça passe de 44 matchs à 64 matchs. Donc, pour les gardiens de but, là, le volume est beaucoup plus grand. Puis même si les séminatoires, déjà 3, c'est quand même assez long, ben il n'y a quand même rien qui accote le 4 rondes de série, le 4 de 7 là, au niveau de la LHJMQ. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement exigeant. Fait que c'est encore plus vrai pour les gardiens souvent.
Tu as parlé qu'il a été retranché par Esther Blondin. Hier, il les a blanchis, je pense, 5-0.
J'étais là hier soir. Il était content. Mais tu sais, à un moment donné, c'est sûr que pour lui, c'est un beau défi d'avoir affronté l'équipe de sa structure intégrée. Ouais. Puis tu veux faire le mieux possible. Mais vraiment, t'es bon. Je te dirais que j'étais là avec Yannick, notre directeur gérant, puis un autre de nos recruteurs. Puis ce qu'on disait, tu sais, Amos, hier, il était sa tâche. C'est vraiment, ils n'ont pas volé le résultat d'hier. Là. Je sais qu'aujourd'hui, ça a moins bien été, mais hier, c'était vraiment l'équipe qui a travaillé le plus fort sur la glace.
Ça, on n'en a pas parlé, mais le recruteur, c'est lui qui va parler aux joueurs déjà repêchés par l'équipe?
Ben, ça, encore là, je me répète, là, je vous ramène tout le temps à ça, mais ça dépend d'une équipe à l'autre. Nous autres, je te dirais, avec ce qui s'était produit avec la COVID, on s'était rendu compte que garder le contact avec les joueurs, c'était plus ou moins évident. Fait qu'on s'était promis comme organisation que lorsque ça retournera en présentiel et qu'on pourrait aller voir des matchs et ces choses-là, qu'on ferait en sorte là, de développer le sentiment d'appartenance et faire sentir aux joueurs que même s'ils ne sont pas encore des voltigeurs officiellement, qui appartiennent à l'organisation et qu'ils sentent qu'ils font partie du processus eux aussi. Fait que depuis deux ans, on a un de nos recruteurs qui est mandaté là, pour vraiment suivre les joueurs. Il fait une rencontre par mois par Zoom individuellement avec chaque joueur. Jamais on va rentrer en conflit avec les consignes qui sont données par les entraîneurs, le groupe d'entraîneurs, le jet ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour mélanger notre joueur ou quoi que ce soit. Mais on veut juste s'assurer de faire un suivi, s'assurer que ça va bien dans sa pension, que ça va bien à l'école, que mentalement, tout se passe bien aussi. Puis en même temps, juste comme je vous disais, faire sentir aux jeunes que, garde, on te suit de près, puis ta progression est importante pour nous. Puis on veut juste donner les meilleures chances possibles là, à nos jeunes de finir par pouvoir percer l'alignement chez nous. Puis tu vois, honnêtement, si tu regardes l'alignement cette année, tu sais, avec tous les joueurs, là, on en a plusieurs recrues qui ont rentré cette année. Tu sais, je regardais Johan Tassé aujourd'hui qui a eu un bon match. Maxime Lambert qui a compté son premier but aujourd'hui aussi dans la Ligue. Tu sais, c'est tous des gars qu'on a suivis dans les dernières années puis qu'on s'est assuré là, de leur développement puis de voir la progression. Puis on récolte ça aujourd'hui. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne chez nous.
Okay. Est-ce qu'on peut dire que la prochaine étape serait de travailler pour une équipe professionnelle?
Ben, j'entends souvent Sylvain Favreau répondre à cette question-là quand tu fais poser la question comme entraîneur, de dire, comme les joueurs,
ouais,
tu veux atteindre le plus haut niveau possible. Je pense que c'est la même chose pour les recruteurs aussi. C'est sûr que s'il y a une opportunité qui se présente et que c'est un bon fit, je serais menteur de dire que je n'écouterais pas. Mais en même temps, si ça avait à s'arrêter là, dans le sens que si le défi, c'est d'être recruteur-chef d'une équipe junior le plus longtemps possible, puis de vivre l'expérience au maximum, bien, je suis à la bonne place, puis je suis dans une organisation qui me permet de le faire de la bonne façon, fait que je n'ai pas à me plaindre. Puis, tu sais, le thrill de se présenter à l'aréna, de trouver des joueurs, d'aider les Voltigeurs là, à monter le meilleur alignement possible, il est toujours là. Fait que tant que ça va être ça, je ne peux pas me plaindre des responsabilités que j'ai en ce moment.
Okay, parfait. Fait que, on va te laisser avec le jeu César du hockey. On te revient tout de suite après.
Parfait.
Le jeu César du hockey.
Bonsoir tout le monde et bonsoir Jean-Bastien. Jean-Sébastien.
Salut Jeune.
De venir au jeu de César du hockey, même si t'es pas mal obligé dans le podcast. J'ai quelque chose, parce que depuis tantôt, on parle de regarder beaucoup de matchs, regarder beaucoup de matchs en tant que chef du recrutement, mais tantôt, je réfléchissais à quel point le chef du recrutement regarde son équipe, à quel point tu vas regarder des matchs de Drummondville comme...
Ben, je te dirais que dans la saison régulière, ça n'arrive pas nécessairement beaucoup. Parce qu'on s'entend que la priorité au travers de la saison régulière, c'est vraiment de voir le plus de matchs possible, M18-3, M17-3, scolaire, ces choses-là. Fait que ça va arriver au travers les horaires de matchs à aller recruter que de temps en temps, je vais pouvoir aller voir un match des Voltigeurs, mais la priorité, c'est vraiment les matchs à évaluer. C'est pas les matchs de mon équipe. Mais par contre, quand il arrive les séries éliminatoires, ben là, souvent, je vais avoir plus l'occasion d'aller voir des matchs. Et l'année passée, honnêtement, là, l'avantage, c'est qu'une fois que les saisons, les séries juniors commencent, la plupart des matchs, budget 3, sont terminés ou presque. Fait que plus tu avances dans les séries, moins on a de matchs à aller voir là, dans des niveaux inférieurs. Fait que l'année passée, je te dirais, toute la demi-finale, toute la finale, même la Coupe Memorial, là, j'ai eu la chance d'aller voir notre équipe. Fait que, ben, j'étais bien content de pouvoir les suivre.
Là. C'est ça, c'était une course profonde en plus en série, donc, et même la Coupe Memorial. Donc, en fait, vous devez être dans l'organisation hockey, les employés qui regardent le moins l'équipe, en fait, là, qui sont le
pas
moins
mal, ouais.
Au day-to-day. Là.
Exact, on essaie de les suivre. C'est sûr qu'on essaie de les suivre, puis je te dirais, par la beauté là, de toutes les internets, tout le kit, on a l'opportunité d'aller revoir les matchs après en différé ou ces choses-là. Mais oui, live, là, d'être sur place, de pouvoir aller voir des matchs sur place, ça n'arrive pas nécessairement souvent dans une saison.
J'ai une question en fait en termes de développement d'un recruteur. Parce que ça fait longtemps que tu fais cet emploi-là. Et mettons, je regardais là, vite avec Boisbriand, mettons, les choix que vous aviez faits. Et le premier choix top 10 que Boisbriand avait fait pendant que tu étais employé par eux, c'était Miguel Picard, qui a été 9e en 2014. Qui, bon, Je ne veux pas dire que ça n'a pas fonctionné, mais contrairement à son rang de sélection et d'autres joueurs qui ont été sélectionnés par la suite, ça n'a vraiment pas été peut-être ce que vous attendiez. Mm-hmm. Je me demande à quel point, justement, des choix comme ça te font développer, te font faire « Hey, la prochaine fois, je vais faire attention de ne pas tomber dans le panneau pour, mettons, je vais juste dire un exemple, Tyson Jones dans la Ligue nationale, le gros centre qui avait l'air un peu parfait. » Ben, il y a plusieurs personnes qui se sont trompées énormément sur leur avis. Donc, je me demande un peu des coups de même, si tu en as d'autres, des exemples de fois où est-ce que vraiment tu as appris des choses pour ton futur, pour te rendre où est-ce que tu es maintenant.
Mais je te dirais que peu importe la sélection, qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne moins, c'est important de le faire, le retour après, puis de vraiment voir justement si ça n'a pas fonctionné, peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on a peut-être surévalué avec le joueur. Tu sais, dans le cas de Miguel, il est arrivé différentes choses. C'est vrai pour d'autres joueurs aussi. Il n'y a pas un joueur que c'est nécessairement les mêmes raisons. Mais en bout de ligne, tu sais, je pense qu'il faut d'être conscient que tu ne frapperas jamais pour 1000 comme recruteur. Tu sais, nous, tout le temps, on ne sera pas parfait. L'important à la fin, c'est de se tromper le moins souvent possible. Fait que, c'est pour ça que c'est important de faire des retours, autant comme recruteur personnellement qu'en groupe, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on aurait peut-être dû voir différemment avec ce joueur-là, qu'est-ce qui a attiré notre attention, puis finalement, ce n'était pas le cas. Des fois là, je te dirais, le plus gros obstacle, c'est vraiment de voir si les qualités du joueur vont bien se transférer au prochain niveau. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui dominent au niveau Pee-wee, Bantam, Midget, pour différentes raisons. Mais souvent, ils vont avoir tendance à stagner quand ils arrivent au niveau junior parce qu'ils ne dominaient pas nécessairement pour les bonnes raisons. Fait que ça, c'est souvent le plus gros défi qu'on va avoir comme recruteur, là, de la fameuse projection, là, d'essayer de voir si les qualités du joueur, ce qui est le plafond, des fois, on va entendre parler de plafond aussi. Est-ce qu'il a déjà atteint ce plafond-là ou il y a encore de la place à s'améliorer, là. C'est ça qu'il faut regarder là, pour essayer de faire la meilleure projection possible.
Bon, on parle de transposer là, du niveau QM18 à, mettons, LHMQ. Je me suis souvent posé la question, vous, en tant que recruteur pour la LHMQ, est-ce que vous regardez plus pour le joueur qui va devenir le meilleur dans la Ligue nationale ou, au final, le meilleur joueur junior? Parce qu'on s'entend que c'est deux choses complètement différentes. On pourrait avoir un joueur, puis je vais donner un exemple aussi que je vais rajouter un peu dans la question, c'est mettons, en ce moment, on a le cas de Justin Carbonneau, qui est un excellent joueur, c'est déjà sa troisième saison, si je ne me trompe pas, dans le junior. Mais c'est le cas parce que c'est un late qu'on appelle. Donc, il est né dans un moment de l'année qui fait qu'en fait, il a été éligible au repêchage 3 ans de la LHMQ, 3 ans avant celui de la NHL.
Ouais.
Comment on fait la décision d'aller chercher le meilleur joueur qui va peut-être être plafonner plus vite, mais qui va rendre des meilleurs services à l'équipe junior? Ou
ben, je pense que tu te réponds dans ta question, tu as donné un petit peu la réponse dans le sens que moi, je suis recruteur-chef pour une équipe junior. Je ne suis pas recruteur-chef pour une équipe de la Ligue nationale. Donc, tu sais, moi, pour moi, la priorité, c'est d'amener des joueurs à Drummondville qui vont, se développer parce que ça reste du développement, mais aussi qui vont performer, qui vont aider les Voltigeurs à être la meilleure équipe possible. Donc, c'est moi, qu'un joueur soit de plus petit gabarit ou que souvent, exemple, les gardiens de but en ce moment, ce qu'on entend avec les recruteurs dans la Ligue nationale, c'est que si le gardien de but est en bas de 6 pieds 2, on ne le regardera même pas peut-être. Alors que c'est complètement différent au niveau junior. T'sais, moi, c'est pas quelque chose qui va venir me déranger qu'un gardien de but ne mesure pas 6 pieds 2. On va commencer par regarder est-ce qu'il arrête la rondelle, puis est-ce qu'il fait la job au niveau où ce qui est là, puis s'il n'atteint pas la Ligue nationale, ben no big deal pour nous parce qu'il va nous avoir quand même rendu des fiers services au niveau junior. Tu sais, je pense pas que l'éthique de Victoriaville soit déçue d'avoir eu un gars comme Darvaux dans leur alignement puis de la façon qu'il a performé, même si c'est un petit gardien de but. Là, tu sais. Donc, ça, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est ça. C'est que nous autres, on est des recruteurs pour des équipes juniors. Fait que l'objectif, c'est d'identifier des joueurs qu'on pense qu'ils vont le mieux performer et qui vont aider le plus nos équipes au niveau junior. Puis tant mieux si à la fin, on en a qui graduent vers la Ligue nationale. Mais la priorité pour nous, là, c'est vraiment d'avoir le plus de sélections possibles parmi nos sélections qui finissent par jouer dans le chandail de notre équipe junior.
Merci beaucoup pour cette réponse avec plusieurs détails, parce que justement, ça a souvent été quelque chose que je me demandais. Puis justement, tantôt, quand j'étais à Boisbriand en train de regarder l'Armada, ça m'a popé le fait que justement, il y a des joueurs, puis eux, ils en ont repêché un autre, Xavier Villeneuve, qui va encore être à sa troisième année junior l'année prochaine, et ça va être son année de repêchage l'année prochaine. Donc, c'est comme si... Bon, c'est très rare, j'imagine, d'avoir des talents quand même de ce niveau-là. On s'entend que Carbonneau et Villeneuve, ça pourrait être des choix de première ronde dans la Ligue nationale. Donc, on verra, mais dans le sens justement de prolonger un peu la résidence dans l'équipe, dans le junior. Puis bon, je voulais en parler parce que justement, aussi, ta première année comme directeur-chef, le 8e et 9e choix overall, et c'est les picks de Mercer et Simoneau. Bon, c'est sûr que je pourrais te demander de me les expliquer, là, mais on s'entend que c'est deux gars qui sont maintenant dans le professionnel. Et bon, Mercer, il y a eu une année un peu en pente descendante l'année passée. Mais c'est comment d'être recruteur-chef et d'arriver et d'avoir deux choix dans le top 10, puis que les deux ont fonctionné pour vous et pour les équipes professionnelles qu'ils ont repêchées.
Ouais. Ben, encore là, comme je te dis, c'est clair que pour nous, c'était les deux meilleurs joueurs disponibles à ce moment-là. Tu sais, je pense qu'on peut voir Dawson, le potentiel incroyable qu'il a, qui est encore, il a encore de la place à continuer à se développer, mais il était déjà extrêmement talentueux à 15 ans quand on a eu la chance de le repêcher. Xavier, c'est un différent un petit peu comme sélection. Tu sais, nous, on y croyait beaucoup. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de lui comme quoi qu'il y avait eu plusieurs commotions cérébrales. C'était pas le cas. Peut-être que ça rendait des équipes frileuses, mais en même temps, on s'entend que le gabarit à 5 et 5, 5 et 6, là, ça devenait un petit peu plus un guess, si tu veux, d'y aller avec une sélection sur lui là, tôt comme ça. Mais nous autres, on avait acheté Xavier. Je me rappelle de l'avoir rencontré en entrevue. On devait être à peu près une dizaine autour de la table. Puis il avait été extrêmement impressionnant par son caractère, sa maturité, la confiance qu'il avait en ses moyens. Tu sais, lui, tout ce qu'il nous avait dit, « Donnez-moi une chance, puis vous le regretterez pas. » Puis je me souviens encore que quand il est sorti de la salle, on s'était regardé toutes les personnes qui étaient dans la salle. Puis c'était unanime pour tout le monde. Dire lui, c'est un voltigeur, là, c'est un vrai de vrai. Puis tu sais, on ne voulait pas passer à côté. Fait que tu sais, c'était deux sélections différentes, mais en même temps, comme tu dis, qui ont été tellement importantes pour les voltigeurs. Tu sais, c'est des gars qui ont eu un impact en bas âge, puis qui ont influencé les autres voltigeurs qui sont venus après eux par la façon qu'ils se sont comportés là, dans la chambre et sur la glace. Fait que d'avoir l'opportunité de sélectionner deux individus comme ça, un après l'autre, c'était vraiment spécial pour nous.
Une autre sélection que vous avez faite très tôt, je pense que c'était le deuxième choix au total en 2021, Tyler Peddle, qui s'est ramassé avec le dernier choix de l'encan de 2023 de la Ligue nationale. J'étais surpris quand j'ai vu qu'il ne se faisait pas choisir, donc j'imagine que toi aussi. Mais quand même, pour qu'il se rende dernier de la Ligue nationale, je ne sais pas, y a-t-il quelque chose que les équipes de la Ligue nationale ont complètement manqué? Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose que tu peux nous dire là-dessus, là, sur pourquoi il est sorti autant tard?
Ben, je te dirais ça en ce moment, c'est la meilleure réponse que je peux te donner, c'est que c'est les équipes de la Ligue nationale qui ont la réponse, dans le sens qu'ils ont les raisons pourquoi ils ont décidé de le sélectionner aussi tard. Je pense qu'on, dans son cas, à lui, on peut parler d'un joueur qu'il faut qu'il continue à peut-être améliorer la dimension sans la rondelle, tu sais, d'être le plus complet possible. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a de doute sur les capacités de Tyler à marquer des buts. Sauf qu'on dit tout le temps que dans un match de hockey, complet, un gars talentueux, là, un gars qui est offensif, va avoir possession de la rondelle, 1 minute 15, 1 minute 20 dans un match. Ouais. Le reste du temps que tu n'as pas la rondelle, il faut que tu trouves une façon d'être impliqué dans le jeu, d'être efficace. Je ne sais pas si ça, je pense que Tyler, là-dessus, il est le premier à être conscient qu'il faut qu'il continue à travailler ça. Mais en même temps, il y a une qualité d'un marqueur, d'un gars naturel pour marquer des buts. Donc, je pense que ça va être à lui, là, dans les prochaines saisons, de peut-être là, prouver que il aurait peut-être dû être sélectionné plus tôt par les équipes de la Ligue nationale.
Là, j'ai une question un peu plus tricky, si je peux dire, parce qu'on s'entend qu'il y a vraiment de plus en plus, peut-être des joueurs qui se dirigent vers les collèges américains ou justement des joueurs américains que vous pouvez repêcher dans le draft de la LHMQ, donc pas à l'international, pas les Européens. Comment on détermine ça un peu dans l'équipe de recruteurs de OK, on va aller mettre vraiment un shot in the dark, là, un peu, lancer un dart sur un Américain ou un joueur qui commit pour les collèges américains, comme mettons Zachary Morin il y a 2 ans.
Ouais. Ben écoute, c'est sûr que c'est important de faire ses devoirs à ce moment-là comme organisation, d'essayer de parler avec le joueur, parler avec la famille, parler avec l'agent. Le discours qu'on a tout le temps, nous, à Drummondville, c'est qu'on n'est pas là pour dire que il y a un parcours qui est meilleur que l'autre. Il y a des bons côtés à jouer dans la LGMQ. Il y a des bons côtés à vouloir poursuivre vers la route vers les universités américaines. Mais en bout de ligne, je pense que c'est important que les joueurs, les familles, les agents fassent leur devoir le mieux possible justement pour identifier le profil du joueur et savoir qu'est-ce qui est peut-être mieux pour lui. Il y en a que pour eux, ça va être le développement sur du long terme, d'aller peut-être plus vers les universités. Il y en a d'autres que ça va être de prendre le chemin un petit peu plus rapide vers la Ligue nationale. Donc, il n'y a pas un chemin parfait, mais nous autres, en bout de ligne, l'important pour nous, c'est de vendre ce que nous autres, on présente comme organisation. Puis je pense que c'est le même défi pour les 17 autres équipes de la Ligue, de faire en sorte qu'à la fin, le joueur pense que le meilleur chemin à emprunter, c'est chez nous. La Ligue a fait beaucoup de travail dans les dernières 10-15 années pour améliorer le programme scolaire, l'encadrement, ces choses-là. Je pense qu'à la fin, même un très bon étudiant qui va vouloir pousser ses études universitaires le plus longtemps possible, il y a moyen de le faire en passant par la LGMQ aussi. Donc, c'est vraiment aux familles, aux joueurs, à sa famille, puis à l'agent de faire leur devoir de la meilleure façon possible à ce moment-là.
OK, super. Puis je veux finir juste avec votre premier choix de l'encan de l'année passée, Louis-Félix Bourque. Puis j'ai une question parce que, bon, vous l'avez pris 30e au total et il avait vraiment fait une saison qui, si on regarde juste, c'est son hockey DB, là, comme on va dire, il a fait 9 points en 40 matchs. Et donc, pour être repêché 30e quand même, il doit avoir fait des bonnes choses off-puck, comme on parlait tantôt un peu à l'inverse de Tyler Peddle. Mais là, cette année, il commence avec 7 points en 6 matchs. Y a-t-il quelque chose que vous avez vu que toutes les autres équipes n'ont pas vu? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joueur-là? Puis pourquoi il éclot comme ça là, dès le début de la saison?
Bien, je pense que toutes les équipes étaient conscientes que Louis-Félix a un gros potentiel. Après ça, ben, tant mieux pour nous s'il était encore disponible au 30e rang quand il est venu le temps de parler. On a aimé sa progression tout au long de la saison. On considérait que dans une équipe où il était comme SSF, qu'il y avait plusieurs vétérans avant lui, c'était pas nécessairement évident pour lui d'avoir des opportunités de se faire valoir là, dans un rôle peut-être un petit peu plus offensif ou de toucher à l'avantage numérique un petit peu plus ou des choses comme ça. Mais malgré ça, on trouvait que sa progression était quand même bonne et qu'il y avait des outils intéressants. T'sais, c'est un gars avec un bon gabarit, un bon coup de patin, un bon sens du jeu, puis qui est capable de s'impliquer physiquement. Puis on n'est pas avec la performance qu'il a offert chez nous au camp d'entraînement cette année, on n'est aucunement surpris de voir le début de saison qu'il est en train d'avoir en ce moment. Je pense que le niveau de confiance qu'il est allé chercher, la façon qu'il avait performé au combine juste avant le repêchage, puis là, à notre camp d'entraînement cet été, bien, il fait juste continuer à bâtir sa confiance, puis il récolte là, avec les Blizzards depuis le début de la saison.
Super, ben sur ça, je vais te relancer sur Oga. Merci beaucoup d'avoir participé au jeu 6 heures du hockey et bonne soirée.
Merci à toi.
Au revoir. La mise en échec est une présentation de CAG Sport. Pour des Raz de cartes d'hockey, vente et échange de cartes sportives de toutes sortes et futur break de boîtes de cartes, consultez la page Facebook CAG Sport. Mise en échec.
Avec la mise en échec, c'est le temps des anecdotes que Sébastien t'avait demandé de trouver, je crois.
C'est ça? Ouais, c'est ça.
Sébastien m'avait demandé de trouver des anecdotes. Je me suis basé un peu votre premier invité de la saison. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, le gars qui est rendu à Rimouski? Là?
Mathieu Catafort.
Mon cher Mathieu, j'y avais demandé c'était quoi son pire moment au travers la mise en échec la plus percutante qu'il avait reçue ou quoi que ce soit. Mais moi, je me rappelle d'un match que j'ai coaché à Halifax, une des saisons que j'étais adjoint avec les Cataractes, on en a parlé tantôt. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Brad Marchand était un foreur, mais il avait été échangé au Mooseheads, puis ça s'était fait pendant le championnat du monde junior. Et puis, cette année-là, nous autres, Cataract, un de nos voyages des Maritimes, c'était tout de suite après les fêtes. Et puis, ça donnait que le dernier match, je pense que c'était le troisième match en 4 jours, on finissait à Halifax. Puis, malheureusement, pour les Cataracts, ben, c'était le match retour au jeu dans la GMQ de Brad Marchand et de Jacob Voracek. Fait que je me souviens encore... On s'était fait annoncer là, officiellement que les deux étaient dans l'alignement quelques heures avant que le match commence. Puis là, on s'est débarqué à l'aréna, puis il leur avait fait faire la période d'échauffement. Brad Marchand avait fait la période d'échauffement avec son chandail de Team Canada Junior, puis Voracek avec son chandail de la République tchèque. Et écoute, le match, je pense qu'on s'est fini 8-1 ou 8-2. On s'était fait varloper. Les gars étaient brûlés d'avance. Puis en plus, les deux superstars qui débarquent, il y a 10 000 personnes à peu près dans la place. Là, c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait. On était juste à la mauvaise place, au mauvais endroit cette journée-là. On avait eu pour notre argent. Fait que, c'était assez mémorable comme match.
Intense. T'avais-tu une deuxième anecdote?
Ben, deuxième anecdote, Benoît Groulx qui avait refusé de nous serrer la main après le cinquième match de la première ronde contre les Olympiques de Gatineau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Tommy Tremblay avait mis en échec Ryan Muir, le gardien de but des Olympiques, à la fin du deuxième match à Gatineau. Puis c'était assez... C'était assez percutant comme mise en échec. Là. On est en désavantage numérique. Puis Tommy était parti d'un bout à l'autre de la glace. Puis c'était Muir qui avait joué le dégagement. Puis Tom n'a jamais ralenti. Puis il avait frappé le Muir. Même moi, je me posais la question comment est-ce qu'il avait fait pour se relever après le contact. Là, parce que ça avait vraiment été percutant. Puis finalement, c'est ça. Après le cinquième match, quand les joueurs se sont groupés au centre de la glace, puis se serrent la main, nous autres, moi et Eric, on traverse la glace pour aller voir Benoît, puis Benoît jamais voulu nous serrer la main.
Et lui, il en vient de bord ou...
C'était de votre bord, je veux rien savoir. Fait que on n'avait pas eu la chance de serrer la main à Benoît après ce match-là, malheureusement.
On a une question de Félix. Est-ce que tu avais des sources d'inspiration, des idoles ou peu importe, qui t'ont influencé dans ton choix de te lancer en coaching ou recrutement?
Source d'inspiration. Ben, dans le coaching, c'est sûr que il est décédé aujourd'hui, c'est M. Jacques Fafard. Là. C'était un de mes premiers coachs au niveau du hockey mineur dans le MAC, dans le Navis. Puis après ça, il m'avait recoaché au niveau PIOI. Puis ensuite, quand j'ai eu l'opportunité de devenir entraîneur-chef, c'est lui qui était président du hockey mineur à Saint-Basile-le-Grand à ce moment-là. C'est lui qui était venu me voir. Puis encore aujourd'hui, je soupçonne là, qu'il savait ce qu'il faisait. Là, mais il était venu me voir en me disant « Jean-Sébastien, puis oui, c'est pratique tantôt. C'est la dernière pratique du camp d'entraînement. Puis j'ai pas encore trouvé de coach, mais j'étais en discussion avec une couple de parents. Fait que ça te dérangerait-tu de faire la pratique le temps que je trouve un coach, puis aussitôt que je vais avoir trouvé ça, tu vas pouvoir passer à d'autres choses. Finalement, ben, comme par hasard, il n'a pas trouvé de coach. Fait que j'ai pris l'équipe, je l'ai coaché toute la saison, puis ça ne s'est jamais arrêté depuis. Mais c'est sûr que Jacques, ça a été une grande inspiration. Puis, côté recruteur, ben, c'est sûr qu'un gars comme Yannick Lemay, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a engagé avec les Screaming Eagles dans le temps. Puis, on n'a pas une grosse différence d'âge. Moi, j'ai 48 ans, Yannick a 50. Ça fait qu'il y avait déjà une facilité à s'entendre là, quand j'ai commencé. Puis ça s'est toujours poursuivi. Puis quand il est engagé par les Jets de Winnipeg, Yannick a passé quand même 12 ans avec les Jets. Puis on on se recroisait souvent dans les arénas. Puis souvent, le discours, c'était hey, ce serait le fun qu'on ait l'opportunité à un moment donné de refaire du hockey ensemble. T'sais. Fait que quand, quand ça s'est produit l'année passée, là, ben dans le fond, au mois de mai, il y a 2 ans, je trouvais ça très, vraiment spécial là, que cette opportunité-là se présente. Fait que, je pense que c'est clair qu'Yannick, c'est un de mes mentors là, par rapport au scouting.
Parfait. Fait que, on va pas.
Les tirs de barrage, Seb.
Yes, les tirs de barrage. C'est bon.
Les tirs de barrage sont une présentation de Perfo Elite. Pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit seul ou en équipe, hors glace ou sur glace, physique ou mental, et tout ce qui touche le développement global, rendez-vous sur perfoelite.com. Bon tir de barrage.
Tir de barrage. Fait que tir de barrage, une couple de questions à rafale pour toi, puis après on te laisse passer une belle soirée. C'est bon? Ton foursome de golf de rêve.
Foursome de golf de rêve.
Avec célébrité, gens décédés, peu importe.
Ouais, ben c'est sûr que la première personne, ce serait mon père. Il est décédé dans le COVID 28 décembre 2020. Puis j'ai pas eu la chance j'ai joué une fois au golf avec lui. Fait que si tu me dis foursome de golf, j'aimerais ça le ramener pour pouvoir jouer au golf au moins une autre fois avec. Mais c'est sûr que c'est juste l'occasion d'être avec mon père une autre fois que je trouverais spécial. Sinon, dans les célébrités, ben, c'est pas original, mais un gars comme Mario Lemieux, là, je pense que pour moi, ça a été toujours une grande idole. Je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur joueur qui joue dans la Ligue nationale. Fait que d'avoir l'opportunité de pouvoir passer du temps avec lui. Puis en plus, c'est un excellent golfeur de ce qu'on entend. Fait que ça serait pas pire. Il m'en reste deux. Michael Jordan.
C'est tout dedans.
Ah, c'est vrai, t'as raison. Ben, Michael Jordan, le dernier. Michael Jordan pour la personnalité, là, tu sais, tout ce qu'il représente. Puis lui aussi, ça a l'air que c'est un bon golfeur. Fait que si jamais on joue Vegas, on finirait par avoir un bon score à la fin.
L'un de tes passe-temps favoris.
C'est définitivement d'aller voir le plus de spectacles de musique possible. Je ne sais pas, je suis rendu à combien, mais j'en ai beaucoup à mon actif. Je suis assez varié dans mes goûts musicaux, là, mais tu sais, je suis un gros fan de Coldplay. La dernière fois que je suis allé voir Coldplay, j'ai eu la chance d'aller voir juin 2022 au New Jersey. Là, ils sont dans leur tournée dans les stades. Là, puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou vu des images de Coldplay en spectacle, mais c'est complètement incroyable. Fait que, avoir eu la chance de les voir là-bas, ça, c'est trippant. Fait que c'est voir ces shows de musique.
OK.
Parfait. Ton joueur NHL préféré all time, pas obligé d'être actif encore.
Je te dirais Bobby Orr, même si j'ai pas eu la chance de le voir jouer en présentiel, là, mais la façon qu'il a pu influencer le jeu, un quatrième attaquant, d'amener énormément d'offensives qu'il a faites. Puis tu vois les images dans le temps, je veux dire, tu vois la façon que Bobby Orr patine, qui jouait la game, il jouerait aujourd'hui, puis il serait très dominant encore. Là, fait que il était vraiment en avance sur son temps de ce qu'on peut voir dans les images. Fait que, ça a vraiment toujours été un joueur là, impressionnant là, pour moi. Là.
Probablement que Kyle Macker a regardé des vidéos un peu.
Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances.
Ton équipe préférée, NHL, mais si c'est Canadien, tu me donnes ta deuxième.
Oui, Canadien, c'est ma préférée, c'est sûr. C'est notre équipe d'enfance.
Ouais.
La deuxième, il y a eu les Red Wings dans les grosses années. Là, les Red Wings des années 90, c'était vraiment une de mes équipes favorites. Aujourd'hui, je te dirais que l'Avalanche. L'Avalanche, c'est un beau modèle d'équipe. Là.
C'est bon.
Dans le fond, un sport potentiel à travailler si tu n'étais pas dans le monde du hockey?
Ben, je suis un gros fan de baseball. Tu sais, moi, j'ai été au sport études baseball comme joueur étudiant avec le programme baseball des Drouin-Montpetit dans l'Est de Montréal. Je suis allé là secondaire 3-4, fait partie de la première cohorte qui est rentrée dans ce programme-là. Fait que baseball, c'est quelque chose dans lequel je serais prêt à travailler aussi.
Quelle autre sphère du hockey tu devrais faire en après-carrière? Y a-t-il une autre sphère qui t'intéresse ou c'est vraiment le recrutement?
je me sens très, très bien dans le recrutement. Puis honnêtement, j'aimerais ça faire ça le plus longtemps possible. Fait que, puis ça donne que dans les différents postes que tu peux avoir, c'est peut-être un de ceux que tu peux occuper le plus longtemps possible aussi. Fait que je vais me concentrer sur le recrutement.
Si ton boss te dirait si t'en vas derrière le banc, si t'es un coach, tu ferais quoi?
Ah, écoute, c'est sûr que le coaching, c'est. T'sais, genre, on entend souvent Michel Bergeron dire que le coaching, c'est une drogue, là, t'sais, que ouais. Tu ne peux jamais arrêter. Puis il n'y a pas tort. Là, t'sais, je veux dire, il y a quelque chose de spécial à être sur la glace dans les entraînements, puis dans les rencontres avec les joueurs, puis derrière le banc pendant les matchs ou dans la chambre. Fait que c'est sûr que le coaching, c'est toujours quelque chose qui va rester dans moi. Mais le recrutement, c'est devenu une grosse passion aussi, là, ça c'est sûr.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais aux Jean-Sébastien qui commence le métier de recruteur?
De ne pas vouloir aller trop vite. Pas vouloir aller trop vite parce qu'à un moment donné, justement, de la façon que le coaching est fait ou le recrutement est fait, l'objectif, c'est tout le temps de graver les échelons, mais des fois, on a tendance à peut-être vouloir sauter sur la première opportunité qui se présente au lieu de vraiment d'y aller avec le meilleur fit pour nous-mêmes. Tu sais, j'ai pas de regret dans le sens que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai été adjoint au niveau budget 3, j'ai été en chef au niveau budget 3, j'ai été adjoint au niveau junior, mais je regarde avec du recul, là, des fois, peut-être d'avoir pris deux ou trois saisons de plus à différents niveaux là, pour vraiment aller chercher le maximum d'expérience possible. Ça aurait peut-être été plus salutaire. Puis, tu vois, je pense qu'au niveau du scouting, je l'ai fait, ce cheminement-là. Là, j'ai pris mon temps, puis j'allais chercher le maximum d'expérience. Puis quand l'occasion avec les Voltigeurs s'est présentée, ben, je pense que j'étais prêt, puis c'était le bon moment pour le faire. Là, fait que j'ai pas rien précipité de ce côté-là, puis je pense que ça a été salutaire.
Que pouvons-nous te souhaiter pour la suite?
De la santé, justement, pour pouvoir être recruteur le plus longtemps possible. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que je disais tantôt, tu sais, j'ai vu beaucoup de recruteurs le faire jusqu'à 70, 75 ans même, tu sais, puis d'être encore efficace à le faire, fait que c'est tout simplement la santé là, pour avoir la meilleure vision possible, tout ce que ça prend de nécessaire pour être un recruteur efficace, là, pour pouvoir continuer à me promener dans les arénas, puis... vivre le trip, vivre l'expérience. T'sais, moi, je le dis souvent, j'ai commencé au programme hockey au Collège Charlemagne à 22 ans. Ça fait que depuis l'âge de 22 ans que je fais du hockey là, à temps plein, mais je travaille pas depuis que j'ai 22 ans. Je fais juste vivre de ma passion depuis que j'ai cet âge-là. Fait que c'est la santé pour continuer le plus longtemps possible.
Ouais, c'est sûr. Mais merci encore, JS, d'être venu à notre podcast. Ça a été 1h25, très intéressant.
Mais merci à vous autres pour l'invitation, puis bonne chance pour la suite.
C'est un plaisir, merci. Mais presque 1h25, il est quand même parti.
Ouais, avec la petite pause imprévue, là. Merci,
ben, enfin, merci beaucoup.
All right, bye-bye.
Salut, bonne soirée.
Bonne saison. Yes, très intéressant d'un bout à l'autre. Là, je pense que le rep va être prêt, il va y avoir des sujets chauds à nous parler. Faut que tu peux rentrer.
Sujet chaud comme la face à Cédric Paré ou quoi?
Un instant, tu choisirais pas de quoi je parle pour commencer. Et 2 minutes à Zach pour insubordination en partant. Je vais commencer par faire un peu de pouce sur ce que Jean-Sébastien mentionné tantôt. Il a dit que c'était Olivier Michaud qui est l'entraîneur de gardien des Voltigeurs de Drummondville. Connaissez-vous la moyenne, le taux d'efficacité de Olivier Michaud dans la Ligue nationale, les boys?
Non.
Attends, Olivier Michaud, ça c'est le gars, j'ai fait un camp à son école d'hockey. Il a genre joué soit un match ou soit une période, puis il a été extrêmement bon, me semble.
Ah, ben écoute, il a un taux d'efficacité de 1000 parce qu'il n'a pas donné de but dans la Ligue nationale. Il a gagné une période pour les Canadiens, la troisième période. Et puis, il avait pas donné de but. Donc, c'est ça. Fait que juste un petit fun fact comme ça, en passant. Puis, pour répondre à votre question au départ, il y a beaucoup de les auditeurs, ce qu'ils nous ont écrit, bon, on a eu Owen Beck, on a eu Florent Jacquet, bon, Jérémy s'est trompé, il y a Jacob Dobbs, même s'il est encore avec le CH. Moi, pour ma part, je vais vous dire que celui que j'ai le plus aimé, je dirais, c'est Luke Tuck. Pourquoi? Parce que Luke Tuck, je le vois comme le potentiel remplaçant de Yoel Armia, Joel Anderson, tu sais, espèce de gros gars, power forward, capable de la mettre dedans, capable de brasser un peu. Fait que c'est ça. Moi, Luke Tuck, j'ai bien hâte de le voir à Montréal. Puis, écoute, si on regarde son frère, tu sais, on peut voir à peu près quelle sorte de gars que ça peut devenir. Je dis pas qu'il va être aussi bon que son frère, sauf qu'on voit à peu près qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, je vais sauter, tu sais, bon, je connaissais tout Martin Saint-Louis, hein, mais il y a encore ses mains, hein, pour vrai. Là, j'ai vu un petit vidéo, un short. Je vais juste vous montrer ça rapidement. So pull it up. Say it with me.
De scorer exactement comme ça, je ne me souviens plus c'est contre quelle équipe, en tir de barrage, je pensais.
Ouais, effectivement, il a fait ça en tir de barrage. Est-ce que tu étais super impressionné sur le coup? Puis écoute, il est là encore. Écoute, sérieusement, si sa job c'était de donner confiance au goaler, il a manqué sa shot parce que c'est pas ça qu'il a fait partout. On va parler un peu du CF Montréal. Écoute, CF Montréal qui a gagné hier une grosse partie 3-0. Et puis la star du match, Mister ici, Joseph Martinez. Joseph Martinez qui est l'attaquant, qui était l'attaquant d'office hier. Donc, deux buts, les deux premiers buts. Très, très bel job. On va aller en baseball, MLB. MLB, pourquoi? Parce que les Aces d'Oakland, donc, qui ont joué leur dernier match à Oakland, à partir de la saison prochaine, ils s'en vont à Vegas. Donc, c'est toute une dynastie qui se termine à Oakland parce que là, ils n'auront plus aucun sport professionnel. Il y avait les Raiders au football, il y avait une équipe, les Warriors, dans NBA. Ils ont perdu. Et puis, c'est ça. Fait que là, ils viennent de perdre leur troisième équipe professionnelle, même jusqu'à quatrième, parce que dans le temps des années 70, il y avait une équipe au hockey aussi, les Seals, qui jouaient à Oakland. Puis qu'ils sont partis. Ensuite de ça, on va aller avec mon segment l'ovation du ref, si ça vous tente.
Let's go. Une fin. Veilleux s'amène. C'est le qu'on va le prendre. Quel tir de Veilleux! Batters gaffe. Veilleux marque. C'est 3-0. On va le forcer à passer à Bourroche. Un tir bloqué. Retour. Et quel arrêt de Blackburn!
Komarov la fin. Ça va en son but. Incapable de tirer quand on a filé. Revient devant. Et va!
Créé par Poirier. De l'autre côté, la passe, la flotte.
Oh! Et le but! Quel but!
Rapide, entre, couvert le filet.
Oh, wow!
Oh, wow! Simon!
Hashtag remplissons les arénas, qu'est-ce qui s'est passé de hot cette semaine? Écoute, il y en a beaucoup comme à toutes les shots, sauf que cette semaine, j'ai retenu le premier but du match d'hier de Samuel Fiala contre l'Armada de Blainville-Vaubrien. Écoute, l'Armada était en désavantage numérique, oui, sauf que Fiala, c'est comme s'il a fait un McDavid de lui-même, il a tout fait tout seul pour aller scorer. On check ça.
En zone centrale. 12 secondes avant le retour d'Olivier Lemieux. Fiala, belle manœuvre. Fiala, son tir est contre. Samuel Fiala sert une tasse de café. Une belle fin devant Alexandre Carbonneau et les Foreurs qui marquent un deuxième but aujourd'hui en avantage numérique. Et c'est 2-0 les visiteurs.
Top. Ben, fait que c'est ça. Fait que, écoute, le jeune, il a tout fait tout seul. Il a scoré. Les Foreurs ont gagné 5-4. Ils ont scoré les derniers buts. 45 secondes de la fin de la troisième période, finalement, en fin de partie. On a eu peur. Ils ont eu peur, hein, parce qu'ils menaient 4-0. Ils ont remonté 4-4. Ils ont gagné ça 5-4. Bref, là, c'était ça.
Il y a un autre à éviter. Il est écrit shérif. Là.
Bon. OK, on va en parler, mais dans mon dernier segment. Donc, le segment You Can Do That de la semaine, vous allez devenir, c'est relégué à qui cette semaine? I'll have none
of your God. They can't do that. Étant partisan des Canadiens, j'imagine que c'est pas un Blue Jacket.
Non, écoute, bon. On va mettre la photo là, de Cédric. Là. Je vais la retrouver. Il y a une photo ici. C'est sûr que ce n'est pas avec, c'est pas avec les Maple Leafs, là, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le prendre la photo. Il était caché en dessous de Jacky. Fait que, on n'irait pas vers la face de toute façon. Bref, non. Le gars, écoute, à quel point, tu sais, bon, est-ce qu'il voulait blesser l'aîné? Probablement pas. Probablement pas. Sauf que, est-ce que son geste est intentionnel? Le gars, il est staché, debout, il bouge pas, t'as Patrick Laine qui s'en vient devant toi. À quel point tu penses que tu vas l'arrêter? Pour vrai, là. OK? T'es debout, t'as Laine qui s'en vient. Moi, je vais arrêter le gars-là. Mais non, écoute, oublie ça, tu l'arrêteras pas. Fait que là, ben, le geste intentionnel, on va dire qu'il a fait, c'est sortir le genou. OK? Parce que, pas ça, Patrick Laine, c'est sûr qu'il passe entre les deux joueurs. Mm-hmm. Oui, il y avait un autre joueur qui s'en venait de l'autre côté pour le mettre en échec. Mais à grosseur de Laine, c'est sûr qu'il gardait le contrôle de la puck. Bon. Bref, ceci étant dit, comme j'ai dit, je suis pas d'accord avec le fait. J'en ai-tu parlé au début, peut-être hors d'onde. Je suis pas d'accord avec les commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, les menaces qu'il a reçues. Non, ça, ça n'a pas sa place. Sauf que, mec qui va faire une visite à Laval, parce que c'est sûr qu'il ne sera pas, des Maple Leafs, ben, gâtez-vous. Ce que je comprends pas aussi, c'est que, bon, là, écoute. Hein, d'habitude, je prends pour les arbitres, mais là, je peux pas. Pourquoi il n'y a pas eu de punition? C'est vrai que ça s'est passé vite. Sauf que c'est ça. Fait que Cédric Paré, t'as mon 10 minutes inconduite pour être un innocent. non, écoutez, je m'excuse. C'est pas ça. C'est juste que le gars, écoute, il voulait pas lui faire mal, mais il a intentionnellement sorti le genou pour l'arrêter parce qu'il voulait garder son poste. Sauf que c'est ça. Ça aurait mérité au moins 5 minutes.
Pour avoir été joueur, je vous promets que quand tu sors le genou, tu as fait exprès. Mm-hmm. Tu dis pas je vais blesser le gars, mais je veux dire, t'es en contrôle de tout ton corps. Là. Surtout au niveau fucking Ligue américaine NHL. Là.
Ouais, non, c'est clair. Puis tu sais, en même temps, regarde, c'est juste que tu sais, qu'est-ce que tu faisais debout comme un piquette en avant de Patrick Laine? Sérieux, tu penses-tu vraiment que tu vas l'arrêter de même? Là? Regarde, skate, fais quoi, patine, si, ou attends-les avec ton bâton, pars à patine de reculons, mets-toi en avant. Je sais pas, mais si t'es staché là, statique, c'est sûr que tu l'arrêteras pas. Fait que là-dessus, les boys, je vous laisse. Bonne soirée.
Yes. Moi, il y a une phrase que j'avais lue sur Internet, c'était que t'es censé aller chez Paris, pas te faire amorcer par Paris.
Moi, j'ai vu, j'en parlais, là, je sais plus à combien exactement, mais le GoFundMe, c'était drôle en esti. Sinon, j'ai vu une photo de lui, il était écrit « Never play hockey again ». Ça, c'est pas des menaces, là, c'est juste drôle. Là. Puis j'ai vu une affaire « Ennemi public numéro 1 ». Fait que...
D'après moi, Laval, il ne sera pas d'amis, ça, c'est sûr. Avec Arsenault et Florian, d'après
moi. Pour m'en faire sortir le genou mille fois à ma dernière saison avec toi, Zach, je confirme que c'est intentionnel de sortir. Effectivement,
là... Donc, on va parler de l'épisode de cette semaine. Dans le mille, ils vont recevoir... Renaud et Jules vont recevoir Jeanne Collet-Blanchet pour aucune Québécoise dans l'équipe canadienne à U-Sport. Ils vont parler. Il a fait un article sur TVA Sports, je pense, un rédacteur de TVA. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ils vont parler de U-Sport féminin. On va nommer les trois étoiles de la semaine pour la. C'est la première fois qu'on l'annonce cette saison. La première étoile, Ludovic Guillemette. La deuxième, Mathieu et Isaac pour leur travail formidable. Puis la troisième, Caroline Poitras. Elle fait un travail formidable pour Rimouski. Puis avec Jay pour Moncton.
Chris, Nicolas, il a été silencieux.
Ah, ouais. Il a été silencieux à soir aussi. C'est lui qui a commenté. C'est à moi que tu parlais de ça. OK, fait que sinon, la semaine prochaine, j'ai pas déjà le nom d'invité. Ça va être annoncé cette semaine. C'est à ne pas manquer. Je suis pas mal sûr. Sinon, 1h40 encore quasiment. Très intéressant. Un
recruteur, ouais, ça fait deux longs podcasts, me semble.
Ouais, deux de suite.
Ben, c'est, tant mieux, ils n'ont pas été.
Mais tu sais, ça nous donne le côté du recruteur. On en parle, oui, mais pas. Tu sais, là, on a su son parcours, on sait le côté recruteur, recrutement, comment il se compte un peu.
Ouais, exact. Puis pour de vrai, je n'ai pas été silencieux pour lui. Bon, là, je pense qu'on s'éternise.
Yes, c'est bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine.
Yes, salut tout le monde.
Pour parler, c'est devenu une habitude. Sur la bande, c'est là que le sport, on en discute. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux